Bien, je suis très impressionnée d'être aux côtés de Nestor, que je connais depuis quelques années et avec lequel j'ai eu la joie de participer, notamment au Choralie internationale de Vaison-la-Romaine. Peut-être certains parmi vous connaissent bien cette rencontre triennale. Le talent de Nestor est évident à tous les milliers de choristes qui ont pu chanter avec lui, qui ont eu cette chance. Mais d'où vient-il? Que fait-il? Qui est-il? Voilà ce que nous avons envie de connaître, de savoir. Nous savons déjà qu'il est argentin et qu'il tient un grand rôle justement dans son pays pour la promotion et la qualification du chant choral dans son pays, puisque, peut-être allons-nous parler de cela déjà, Nestor est professeur de direction chorale depuis de nombreuses années, et à cette occasion, je pense qu'il a eu l'occasion de former de nombreux chefs de chœur qui sont maintenant aussi devenus des chefs de chœur professionnels que l'on voit aussi à l'étranger. Nestor, je te laisse parler de ton métier.
Merci, ma chère. D'abord, il est absolument vrai que j'ai connu Eliane en 1998, au cours des premières chorales où je suis venu. J'étais venu juste comme un invité. Je venais de remporter avec le Chœur national de jeunes le Grand Prix de Tours. Et donc, on m'a invité. J'ai animé un tout petit atelier et j'étais énormément séduit par la qualité de Eliane. Est-ce que tu étais en train de préparer quelque chose de Haydn, c'est bien ça?
98, la création peut-être, je ne
oui,
sais plus.
Oui, oui. Et donc, pour moi, c'est un double honneur d'être maintenant ici, à côté d'Eliane, qui pour moi est vraiment déjà devenue une amie, et devant vous, qui êtes intéressés pour connaître un peu de quoi il s'agit le chant choral dans mon pays. D'abord, je vais commencer pour vous dire que l'Argentine, comme je le dis souvent, est un pays qui est né des bateaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme un peu, presque dans tous les pays de l'Amérique, du Canada jusqu'à la Terre de Feu, chez nous. Et nous avons eu en Argentine trois très importantes vagues immigratrices. La première, en 1880. Le pays, après cette première vague immigratrice, avait 2 millions d'habitants, dont 1 million n'étaient pas nés dans le pays. C'était une politique d'État parce qu'il fallait peupler le pays. Et l'intérêt de cette génération-là, de ce qu'on dit dans notre histoire, la génération des 80, des années 1880, était de peupler l'Argentine, mais notamment avec des immigrants européens. Ceci a fait que, entre cette première vague, celle qui a été avant, pendant et durant la première et la deuxième grande guerre, notre pays s'est enrichi avec la présence de beaucoup de gens, notamment italiens et espagnols, spécialement italiens et espagnols. Mais on a une colonie allemande, française, Slovène, c'est-à-dire c'est un pays des Arabes, des Juifs, c'est un pays multiculturel, pour qu'on puisse le dire, qui n'a absolument pas de problème de religion. Toutes les religions peuvent coexister sans aucun type d'agression et des problèmes. Et dans le domaine du chant choral, ça a donné la possibilité à que des gens comme moi, je sais que je... Quel est mon âge? Dis-moi, quel est mon âge, à ton avis? 60. Et par là, vous disiez 45, voilà. Donc, toi, tu peux t'en aller. Merci.
Ah, elle s'est renseignée.
Je viens d'avoir 63 ans, même que je donne 47. C'est pas 45 exactement. Et donc, des jeunes de 18, 20 ans aux années 70, au début des années 70, j'ai eu la chance de pouvoir me former avec un grand chef de chœur italien, qui est venu juste après la Deuxième Guerre, ou pendant la Deuxième Guerre avec ses parents, qui a été le formateur des générations des chefs de chœur argentins, qui s'appelle Antonio Russo, et chez qui j'ai découvert ce chemin Après, j'ai continué à me former dans différents domaines parce que, on dit la carrière, le cursus,
oui,
comment...
Oui. Ah, le cursus de formation, oui.
Oui, oui. La carrière de direction de chœur n'existait pas à cette époque-là. Elle a été créée plus tard dans le conservatoire où je me suis formé avec lui et moi et lui. On a créé la carrière de direction de chœur en 85. C'était un premier essai, ceci après. C'était un conservatoire de province. Et depuis, il y a 12 ans, dans la récemment créée Université nationale des arts, dans le département des arts musicaux, il existe la carrière universitaire de direction de chœur. Donc, influence des quelques maîtres européens, j'ai eu la chance de me former en harmonie et contrepoint avec un Autrichien. C'était un juif échappé de la Deuxième Guerre, qui a été Erwin Leuchter, aussi avec d'autres maîtres qui étaient aussi allemands et autrichiens. C'est-à-dire que ce pays qui était né des bateaux a pu former des gens dans différents domaines de l'art et il s'est créé une fusion entre notre caractère latin, argentin, et où il y a un mélange de tango, milonga, et Mozart, Haydn, Schoenberg, et Penderecki et Orlando Lassus. C'est-à-dire, c'est une énorme salade dont je peux dire que je suis l'un des produits. Donc, ma formation a été un peu par-ci, un peu par-là. Je n'ai pas eu la chance d'avoir une carrière de direction de chœur comme maintenant ça existe. J'ai dû payer mes cours d'harmonie et de contrepoint. Et je me rappelle très bien que pour pouvoir payer une heure de cours, une heure à la semaine particulière, je devais avoir 11 élèves de guitare. Que j'apprenais à chanter des chansons des Beatles et des choses comme ça. Et voilà. Donc, à cette époque-là, aux années 70, à la ville de Buenos Aires, que c'est une ville, pour que vous ayez une idée, elle est beaucoup plus grande que Paris. On dort 3,5 millions d'habitants, mais c'est une ville qui, pendant la journée, a 12 millions de personnes qui travaillent là-bas. Donc, c'est énorme. C'est une ville très étendue. Et dans cette ville, il y avait, aux années 70... 15 chœurs, 15 chorales, pas plus que ça, des chorales universitaires, la chorale de l'Alliance française, la chorale de la maison italienne, et voilà. Maintenant, le dernier census choral...
Recensement.
Recensement, merci. Et il y a, dans 2011, 850 chorales à Buenos Aires. Et donc, c'est une activité très forte qui fait que beaucoup de milliers de gens puissent chanter, s'épanouir et partager l'émotion du chant. Que ce n'est pas uniquement comme les gens disent, ah oui, je vais là parce que j'aime la musique, j'aime sentir ça. Ce n'est pas uniquement que ça, c'est aussi le fait de partager une émotion que l'on ne peut pas décrire. Il y a quelque chose de plus qui se trouve là dès qu'on chante dans une bonne chorale, bien sûr, si, et que les choses vraiment vont bien entre le chef et les choristes. Ce qui se passe, c'est justement le fait de partager une émotion qui va à travers la peau, n'est-ce pas? En ce moment, dans l'Argentine, il y a 6 universités où on enseigne le chant choral. C'est des carrières universitaires dont peut-être la plus importante, c'est celle de l'UNA, Université nationale des arts. Mais il y en a aussi aux villes de Santa Fe, Rosario, La Plata, Tucumán et Mendoza, avec des différents maîtres. En Argentine, ils organisent deux grands concours internationaux de chant choral, dont des chœurs du monde entier viennent. L'un en Patagonie. Vous avez peut-être entendu de la Patagonie, c'est-à-dire la terre, pas uniquement la terre de feu, parce que ça, il y a quatre grandes provinces qui forment le sud du pays, ce qu'on appelle la Patagonie. Célèbre par les pingouins, célèbre par les baleines, célèbre par les éléphants marins et par l'île des oiseaux. Et aussi, il y a un concours de chant choral tous les deux ans. Et l'autre, dans une des grandes villes, dans des grandes villes du vin, chez nous, que c'est la ville de San Juan. Donc, ceci, c'est un peu un bref résumé de ce qu'il a été la formation des chefs de chœur. Et maintenant, nous, on forme des chefs de chœur professionnels parce qu'il y a, il n'y a pas de bonne chorale et de mauvaise chorale. Malheureusement, comme je le dis, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a de bons et mauvais chefs.
Voilà, c'est clair.
C'est-à-dire, tu peux avoir 35 excellents choristes menés par un horrible chef de chœur et le résultat va être pas catastrophique. Il ne va pas être excellent. Il sera médiocre. Mais 35 choristes de base ou qui ont déjà une certaine expérience... avec un bon chef, mené par un bon chef, guidé par un bon chef, et bien préparé musicalement, psychologiquement aussi, parce que nous, on est des leaders.
Si?
On est des leaders. C'est-à-dire le leadership, ce qu'on appelle le leadership, c'est très important. C'est-à-dire de donner avoir une idée bien claire de vers où on veut marcher. Alors, nous, on prépare des chefs de chœur professionnels.
Je peux faire un petit parallèle, si tu permets. Il est vrai qu'en France aussi, dans les années 70, il y avait très peu de chefs de chœur professionnels qui faisaient carrière. Il n'y avait comme chefs de chœur professionnels que les chefs des chœurs d'opéra ou de maisons comme la Maison de la Radio. Et un autre qui était Marcel Coureau, qui dirigeait le groupe vocal, justement, le groupe vocal de France, qui était une émanation de 12 professionnels qui avaient été choisis. C'est tout. Les autres chefs de chœur étaient tous des chefs de chœur amateurs,
voilà.
Même s'ils avaient un niveau de musicien très, très, très performant. Mais ce n'est que récemment, et tout comme toi, j'ai travaillé avec des personnes qui faisaient du bon chant choral, de la bonne direction, et nous avons appris ensemble une pédagogie à enseigner pour former maintenant des chefs de chœur professionnels. Mais c'est donc très, très récent. Mais ceci, toute proportion gardée, parce que bien entendu, nous en avons beaucoup moins qu'en Argentine. Hein, c'est très clair.
Et donc, il y a de toutes sortes de, toutes sortes de chorales chez nous. Et notamment, la plupart, c'est des chorales de base ou de chorales d'un niveau moyen. Tant techniquement parlant vis-à-vis du chant que des gens qui lisent la musique. Mais il y a vraiment beaucoup d'intérêt et ceci s'accroît jour à jour.
Et comment fais-tu travailler, par exemple, ton chœur de jeunes ? Combien de répétitions par semaine ? Combien de temps ? Qu'est-ce qu'ils suivent comme formation ? Est-ce qu'ils ont un travail de solfégique, instrumental, en parallèle ? Peux-tu nous parler un petit peu de cela ?
En ce moment, je dirige deux chorales. Un chœur professionnel, c'est-à-dire ils sont payés pour chanter là. Et ceci change pas mal de choses. Le Chœur national des jeunes d'Argentine a commencé étant il y a exactement 30 ans. Je suis celui qui l'a créé. Et j'ai remporté un concours pour le faire. Et dans les 12 premières années, il a été un chœur amateur, constitué des jeunes, disons 20-30. Hein, pas des adolescents. Des adolescents sous un autre aspect, mais des gens entre 20 et 30 ans. Après, quand j'ai voulu répéter plus et être plus exigeant au point de vue des qualités vocales et aussi de la formation musicale des chanteurs. On a procuré des contrats de la Secrétariat de la Culture. Le chœur toujours a appartenu au Secrétariat de la Culture. Et le processus de professionnalisation est commencé. Et maintenant, ils sont des fonctionnaires. Donc maintenant, depuis une quinzaine d'années, on répète 3 fois par semaine, 2h30 chaque fois, mercredi, jeudi et samedi. Et le niveau d'entrée et de permanence est très exigeant, c'est-à-dire ils doivent lire à vue, ils doivent déchiffrer à vue et avoir de la technique vocale. Pourquoi ? Parce que c'est une chorale que le 8 juillet, je vais diriger un concert a cappella. Le 24, on a la Passion selon Saint Jean. Au mois d'août, j'ai un autre programme. En septembre, un autre programme. Et en octobre, un autre programme. C'est-à-dire que c'est une chorale qui doit lire beaucoup de répertoire et qui a fait de tout, de la Renaissance à nos jours, de musique populaire, musique académique. C'est-à-dire que c'est une chorale qui fait tous les styles. D'un autre côté, je dirige un chœur symphonique. C'est-à-dire que c'est des amateurs, c'est des gens qui payent, pas qui sont payés, qui payent pour pouvoir, qui cotisent tous les mois pour pouvoir chanter là-bas. C'est une chorale d'une petite centaine de personnes. Je fais 2 programmes à l'an. C'est des gens qui ne lisent pas la musique à vue. Donc, pendant l'été, je dois préparer un enregistrement. Avant, c'était une cassette. Après, c'était un CD. Maintenant, c'est MP4, blablabla. La seule chose que je sais faire, c'est de préparer l'enregistrement. Après, il y a quelqu'un qui s'occupe de la partie technique. Et ils ont enregistré tout ce qu'on doit apprendre pendant cette année. Moi, je chante accompagné par une orchestre virtuel, c'est-à-dire tout samplé. Samplé, on comprend ?
Oui, synthétique.
Oui. Et 2 versions, une version plus lente pour qu'ils puissent étudier bien même les passages un peu fous, et l'autre à tempo. Et donc, je programme par mail. Pour mercredi prochain, il faut étudier de la grande messe de Rheinberger, du Kyrie, de la page 3 à la page 12. Et tout le monde étudie. Celui qui n'étudie pas, difficilement pourra continuer avec la chorale, parce que je dis, Pierre, chante ta ligne. Et Pierre dit, pour aujourd'hui, j'ai pas pu... Hein? À la répétition suivante, Pierre, est-ce que tu peux chanter avec ton collègue machin? Et donc, c'est pas nécessaire de virer les gens. Les gens comprennent quelle est l'intention du travail.
Si? Vous voyez ce qui vous attend, ce qui vous attend maintenant pour la rentrée prochaine.
Donc, c'est une excellente chorale amateur. Elle n'a pas du tout le niveau artistique du chœur national, notamment le niveau technique des voix. C'est des gens plus âgés. Ce n'est pas de 20-30. C'est des gens entre 40, 60, 65 ans. Et ceci marche très, très bien. Et pour que vous ayez une idée à peu près, ils doivent cotiser tous les mois quanto se dit eso? À peu près 35 euros par mois. 10 mois à l'an. Si?
Plus cher que chez nous.
S'il y a des gens qui ont des difficultés, et c'est une association, bien sûr. S'il y a des gens qui ont des difficultés, ils parlent avec moi et je demande à l'association qu'il y ait des gens qui
des formateurs.
Non, qui les sponsorisent.
Ah, d'accord.
Hein?
Qui donne une bourse.
Oui, tout ceci est... Il y a toujours quelqu'un qui cotise ça. Et pourquoi ? Ça, je l'explique après. Et donc, ce n'est pas dit. Non, Loïc n'a pas d'argent, donc il y a Louise. Et... Non. Ça, personne ne connaît ça. Il y a le CA qui se charge. Et tout le monde cotise. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire, cet argent ? Ce n'est pas parce que je touche une fortune comme... comme chef du chœur, comme étant leur directeur. Bien sûr que j'ai un salaire, aussi mon assistant, pianiste assistant, et qui me remplace quand je ne suis pas là. Mais les concerts sont avec des orchestres professionnels. Si. Et pour que vous ayez une idée, une répétition d'une orchestre d'à peu près 35 musiciens coûte vers les 1700 euros. Pour monter n'importe quel programme...
Ici, plus cher. Parce qu'avec les taxes, ça double ce que touche chaque instrumentiste. Donc, 35 musiciens, une répétition, c'est à peu près 3500 euros.
Donc, pour monter un programme, il me faut au moins 3 répétitions, orchestre-chœur, plus les concerts. Donc, ça serait, s'il y a 3 concerts, ça fait 6 services. On multiplie ça et vous allez voir que ce que l'association reçoit chaque mois à peine suffit pour pouvoir payer les concerts d'automne et les concerts de la fin du printemps. Voilà. C'est à peu près entre 7 et 8 concerts par an.
Est-ce que je peux revenir sur ton cœur de jeune?
Oui.
Tu dis de 20 à 30 ans. Est-ce que c'est toi qui décides quand ils ont dépassé l'âge, qu'ils ne font plus partie de ce cœur ou ils eux-mêmes quittent le cœur?
Normalement, ils doivent quitter le cœur à 30 ans. Ah. Mais depuis 2 ans, ils se sont tous agrémiés. Syndicalisés.
Oui, carrément.
Ils se sont syndicalisés tous. Et lorsque leur papier de paiement, ils ont un papier de paiement, ceci leur donne... ceci leur donne des droits... droits de travail.
La loi du travail, ou les droits du travail.
Voilà. Et donc, les fonctionnaires du ministère de la Culture ont décidé de le garder. Alors là, il y a un énorme problème parce que depuis 2 ans, je ne peux plus renouveler la chorale qui va se transformer dans une deuxième chœur polyphonique national.
Oui, bien sûr.
Donc ça, c'est ce sont les problèmes qui apparaissent dans la professionnalisation. Si. En même temps, ces jeunes qui sont absolument extraordinaires, ils chantent opéra partout. C'est-à-dire au Théâtre Colón, au Théâtre Avenida, au Théâtre Argentino de la Plata. Et donc, on me demande des permissions
d'absence.
Comment se dit ? Una licencia. Licencia artística. Una licencia artística. Pour 15 jours, et parce que je ne dois pas couper la carrière individuelle de chacun. Donc, cette situation... qui a pas mal transformé ce projet qui a vécu merveilleusement pendant 28 ans, maintenant il a commencé à se dégrader. Et ça, c'est vraiment la vérité.
Peux-tu nous parler maintenant des stages que tu diriges, seulement en Argentine, mais dans le monde entier, puisque moi, j'ai eu l'occasion de te voir en France, mais je sais qu'en Allemagne, en Autriche, dans tous les pays d'Europe notamment, et certainement aux États-Unis aussi, on te demande. Donc, peux-tu nous raconter un petit peu ce qui se passe dans ces stages?
Bien sûr. Il y a différentes sortes de stages que j'anime. D'abord, des stages de formation de chef de chœur. J'ai animé pas mal de stages en France, organisés par À Cœur Joie, que c'est une association qui est en train aussi de changer pas mal, mais qui était constituée notamment par des chefs de chœur amateurs. Donc, il fallait les nourrir. Alors, j'ai animé pas mal des stages de formation de chefs de chœur. Aussi, je le fais au Brésil, au Chili et en Europe. Donc, d'une part, des formations de chefs de chœur. D'une autre part, je suis arrangeur et compositeur. Donc, je suis des fois demandé pour animer un stage de comment est-ce que l'on écrit un arrangement choral, et des techniques de composition pour une chorale de base, pour une chorale d'un niveau moyen, pour une chorale plus difficile et plus développée. Deuxièmement, il y a ça. Et troisièmement, je suis des fois convoité comme chef invité. C'est-à-dire, on prépare un programme et j'arrive et je travaille pendant la dernière semaine et je dirige des concerts. Ceci m'est arrivé en France, en Italie, en Espagne, en Chili, au Brésil, aux États-Unis. C'est-à-dire, j'ai dirigé la Missa Tango de Martin Palmieri, que vous connaissez peut-être, qui est un ami qui a été mon élève.
Cette messe a été donnée notamment il y a 3 jours par une chorale bordelaise, enfin de Mérignac très exactement, hein, la chorale Émiole,
Bien.
Avec Monsieur Palmieri au
piano. Au piano, oui.
Donc,
il est un remarquable pianiste de tango, remarquable. Il connaît très très bien le style. Donc j'ai dirigé ça pas mal de fois. Je vais la primer au Chili au mois de décembre. Aussi, j'ai fait le canto général de Theodorakis à Lyon il y a 5, 6, 7 ans. Et il y a 2 ans, à Briançon, j'ai dirigé un très beau, très bel oratorio que je ne connaissais pas, de Handel, The Ways of Zion. Et je vais faire le Requiem de Forêt dans 2 jours. Trois jours, dans 3 jours.
Jeudi, oui. Tu as été chanteur aussi, je crois.
Ah oui, j'étais chanteur,
Voilà,
oui.
Pas seulement chef de chœur.
Oui, j'étais
Tu as fait une
chanteur.
carrière de baryton.
J'ai chanté, disons, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 30 ans, presque jusqu'aux 40. Ah ben, je vais vous raconter une histoire qui est drôle. La première fois que j'ai dû diriger, que j'ai dû, parce que je ne l'avais pas choisi, hein, diriger une œuvre pour chœur et orchestre, a été en 1981, donc j'avais 29 ans, et c'était la Missa Brevis en sol mineur de Johann Sebastian Bach. Une œuvre terrible pour le chœur, très difficile, qui a 6 mouvements, 3 énormes mouvements chorales et 3 airs. Une aire pour alto, une aire pour ténor, une aire pour baryton. À cette époque-là, j'étais ténor, j'avais mon prof de chant, et voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai dû diriger ça? C'est parce que mon maître, qui devait diriger ce concert, comme il y avait des problèmes dans le conservatoire pour pouvoir former l'orchestre, il a dit: « Ça y est, je ne le fais pas, fais-le toi. » J'avais préparé le chœur du conservatoire, duquel j'étais le titulaire, et donc, il m'a lancé ce cadeau que j'ai. Bien sûr, j'étais content, mais j'avais aucune idée de ce que c'était une orchestre. Et donc, je me suis mis à le faire bien à l'Argentine. Boum, comme ça. Et donc, le premier concert, justement, n'a pas été du tout réussi. Il a été un désastre. J'ai loupé de donner une entrée aux basses dans ce qu'on appelle une entrée du bas en haut, basse, ténor, alti, soprane. J'ai loupé de donner l'entrée aux basses. Et donc les basses sont rentrées à la mesure suivante et les ténors à la suivante. C'était un désastre jusqu'à la fin. Je voulais m'en aller. Je ne voulais être pas là. J'ai terminé la messe, je n'ai même pas salué, je suis parti, j'ai pleuré, j'ai dit: j'ai fait un désastre. Blah. Mais la réalité, c'est que le concert n'a pas été tellement désastreux, mais il y avait une espèce de harmonie un peu bizarre. Disons, ça a duré 2 minutes et demie,
C'est
pour
pas très
moi,
long.
interminable.
C'était l'éternité.
Non, non, impossible. Mais c'était le deuxième mouvement de la pièce. Il y avait 6. Donc j'ai fait tout le reste et après je me suis échappé. Le chœur était ravi avec l'œuvre et on l'avait préparé pendant toute une année et c'était prévu de faire un seul concert. Alors, l'une des choristes me téléphone le lendemain et me dit: Nestor, il faut répéter ça. Non, non, je ne veux pas. Non, mais écoute, toute la chorale veut le faire. Et on a même parlé avec les musiciens qui jouaient sans toucher. C'était que des amateurs, non? Des élèves du conservatoire et quelques amis qui sont venus. Et même, on a déjà réservé la cathédrale de San Isidro pour dans 2 semaines. Alors je me suis dit, d'accord, on le fait. Donc je parle avec les solistes et le ténor me dit, je ne peux pas. Je ne serai pas là parce que je dois partir chez moi. C'était au moins presque décembre. Il était d'une ville qui n'était pas Buenos Aires. Alors je me suis dit, moi je vais chanter. C'était possible parce que c'était ce qu'on appelle une air trio. C'était le chanteur, oboé et continuo. Donc ce n'était pas nécessaire vraiment de diriger.
Musique de chambre.
Musique de chambre, oui. Et je venais chantant parce que j'adorais cet air avec mon prof de chant. Et je l'avais, comment est-ce qu'on dit, la teniangola.
Si, la je l'avais bien en bouche.
Bon. Alors, le jour, on a fait une répé le samedi matin. Le concert était le dimanche. Et j'ai pas fait cet air. Donc, le chœur a été un peu surpris, mais tout est bien. Il me demande au concert, qu'est-ce qui se passe avec le ténor ? Il va arriver, je dis. Il va arriver. Et donc, tout le monde est mis en place. La pièce commence, il n'y avait pas de ténor. J'étais hystérique. Parce que pour moi, diriger, c'était très facile. Mais pour le chanter, ah, mon Dieu ! Et j'avais essayé pendant ce matin-là de chanter l'air et c'était affreux, c'était un désastre. Ma femme m'a dit, mais tu es fou, tu vas tout gâcher, ça va être un désastre. Finalement, tout a été bien et voilà. Et je crois que dans ce concert, j'ai bien décidé que je ne devais plus chanter et que diriger.
Et dans tes chœurs, alors, puisqu'on parle de chant, de vocalité, est-ce qu'il y a une formation vocale qui est assurée parallèlement au travail musical que vous faites ? Que ce soit le chœur amateur, le chœur professionnel
Non, non. Et dans le chœur professionnel, chacun des chanteurs, ils ont leur prof de chant. Mais j'apprends aussi à mes élèves. Je dis à mes élèves, tu dois avoir un son que tu veux, une sonorité spécifique pour ton cœur. Soit très couvert, soit ouverte, soit bien placé, enfin. Et une fois que tu as décidé quel est le style du son que tu veux, alors tu dois pouvoir trouver les moyens pour pouvoir faire que tous ces gens chantent en produisant un son d'un timbre semblable. Mes chers amis, oui, je dois vous quitter parce que à 8h30, si vous allez venir au concert, et j'espère que oui, vous devrez chanter sous ma conduite.